Pop Balloons, c'est un jeu vidéo qui aide les jeunes autistes, un projet qui a été et qui est dirigé par Guillaume Dumas, professeur agrégé de psychiatrie computationnelle à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de psychiatrie de précision et de physiologie sociale du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Et je n'ai pas tout dit parce que je pense que ça me prendra encore un gros 5 minutes. Bonjour, Monsieur Dumas.
Bonjour.
En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la psychiatrie computationnelle?
Oui, bien sûr. Alors, la psychiatrie computationnelle, c'est une nouvelle discipline qui essaye d'utiliser les mathématiques et l'informatique pour aider à explorer la santé mentale et à aider la psychiatrie en général.
Alors, ça vous a aidé, j'imagine, à créer Pop Balloons. C'est un jeu vidéo, mais pas comme les autres. Expliquez-nous exactement là, ce que c'est, comment on joue à Pop Balloons.
Alors, Pop Balloons, c'est un jeu vidéo sérieux, ce qu'on appelle. Donc, c'est un jeu vidéo avec un but autre que juste s'amuser. Dans notre cas, c'est celui d'évaluer des performances cognitives et des profils qui peuvent être utilisés par les cliniciens. Donc, les enfants jouent au jeu, qui est un jeu quand même où ils doivent éclater des ballons. C'est quand même le fun pour eux. Mais on récolte les données et on peut s'en servir pour guider les décisions cliniques, notamment en matière de diagnostic. Et une autre particularité de ce jeu-là, c'est qu'il n'est pas sur un ordinateur ou sur une tablette, mais sur un nouveau support qu'on appelle la réalité mixte, qui est une sorte de casque, un peu comme la réalité virtuelle, mais on a choisi la réalité mixte parce que, contrairement à la réalité virtuelle, les objets la personne n'est pas coupée du monde réel. Mm-hmm. Les objets apparaissent par-dessus la réalité réelle, quoi. Donc le casque, en fait, c'est comme des lunettes translucides, mais il y a un écran inclus dans la lunette qui fait qu'on peut avoir des sortes d'hologrammes inclus dans la réalité. Donc là, dans le jeu, on fait apparaître des ballons, par exemple, dans la pièce. Et avec le doigt, les enfants peuvent éclater les ballons comme s'ils étaient vraiment dans la pièce.
Et ça fait des années que vous travaillez à la création de ce jeu, à son perfectionnement. Parlez-nous un peu de la recherche que vous avez réalisée pour arriver à la version présente de Pop Balloon.
Oui, c'est effectivement un travail de longue haleine. On pourrait dire que ça a commencé... déjà en 2010, pendant ma thèse, j'ai étudié la cognition sociale et ça m'a déjà amené à travailler sur l'autisme avec ma directrice de thèse, Jacqueline Hale, qui avait beaucoup travaillé sur notamment montrer que les personnes autistes étaient capables d'imiter et aller un peu à l'encontre du dogme comme quoi elles étaient complètement incapables d'interagir ou d'imiter. Et dans le cadre de mes recherches, je me suis de plus en plus intéressé à comment avoir une étude la plus naturelle possible, en fait, de ces capacités sociales, motrices des enfants avec autisme ou troubles du neurodéveloppement en général. Mm-hmm. Et donc, comment ramener dans le milieu hospitalier ou quotidien des outils pour pouvoir évaluer ce qui se passe. Et en fait, en 2014, j'ai développé un de ces outils-là en laboratoire pendant mon postdoc aux États-Unis. Quand je suis revenu en France à l'Institut Pasteur, où j'ai travaillé pendant 5 ans, j'ai collaboré avec l'hôpital Robert Debré à Paris, où là, carrément, on a créé un labo dans le service de l'hôpital. Donc, au lieu de rester à Pasteur, j'étais dans le service de pédopsychiatrie de Robert Debré. Et c'est à ce moment-là que les enfants avec qui on travaillait m'avaient fait remarquer que mon système, en fait, c'était un jeu vidéo un peu nul. En fait, mon système n'était pas un jeu vidéo, c'était un protocole de recherche à la base.
Ils n'ont pas été gênés de vous le dire.
Oui, non, c'est ça. Mais moi, j'aime bien, justement, les enfants, au moins, ils sont directs.
On sait à quoi s'attendre.
Exactement. Et en plus, du coup, en étant direct, il m'avait aussi donné une piste parce que, justement, il voyait comme un jeu vidéo. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a moyen de gamifier, de rendre comme un jeu vidéo mon système? Et donc, j'ai commencé à coder un jeu vidéo tout seul dans mon coin. Donc, comme je suis pas développeur de jeux vidéo de formation, c'était pas super joli, c'était pas super efficace, etc. Mais ça a permis de faire des premiers tests. Et de fil en aiguille, en voyant que ça progressait, en faisant des présentations, etc., on m'a présenté en fait une entreprise française, Actimage, qui, elle, était spécialisée en fait dans la transition numérique pour les entreprises, qui accompagnait en fait les entreprises qui avaient des projets de développement. Et ils venaient justement de créer un groupe dans leur entreprise sur la réalité mixte et donc ces casques holographiques. Et du coup, on a dit, bah, Banco, c'est le cadre idéal pour vraiment faire ça sérieusement. Donc, on a fait une première version avec eux. On a fait une deuxième version avec eux en libre accès. Et là, maintenant, on est en collaboration avec une firme de jeux vidéo à Montréal, Eidos Interactive, avec Eidos Sherbrooke et Eidos Montréal, qui nous ont aidés encore plus à pousser le concept. Et on a récemment publié nos premiers résultats, justement, à Neurips, la plus grande conférence au monde en intelligence artificielle. Parce qu'en fait, les données qu'on récolte dans le jeu, après, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir trouver des sous-groupes de patients et pouvoir amener à ce qu'on appelle la psychiatrie de précision, donc ce qui est dans l'intitulé de mon laboratoire, c'est-à-dire faire une psychiatrie qui est, au lieu de voir des catégories comme autisme ou pas autisme, ou avec trouble de l'attention ou sans trouble de l'attention, se rapprocher au maximum de la diversité des personnes et arriver à quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé. Donc pour le traitement et l'accompagnement, être mieux caractérisé en fait l'individu.
Et Guillaume Dumas, ça prend une certaine expertise pour se servir de Pop Balloon. Qui peut accéder à votre jeu?
Alors, l'expertise est surtout dans le développement et l'installation du jeu sur le casque en question. Mais une fois que c'est installé, c'est assez simple. On a fait comme si c'était un jeu classique fait par une firme de jeux vidéo. Donc, on lance le jeu et puis il y a même un tutoriel pour expliquer aux gens comment commencer le jeu, etc. Donc on travaille avec des cliniciens. On va faire un premier test à Sainte-Justine avec des cliniciens justement pour voir comment faciliter encore plus son déploiement et son passage dans le milieu vraiment hospitalier. Mm-hmm. Mais concrètement, n'importe qui peut vraiment utiliser le jeu. Alors la barrière principale, c'est aussi avoir accès à un casque holographique comme celui qu'on utilise. Dans mon labo, on en a acheté plusieurs pour pouvoir être même capable de prêter à des structures pour qu'elles puissent tester le jeu sur le long terme. Mais là, on est sur des technologies qui sont quand même très en émergence. Et d'ici 1 ou 2 ans, en fait, le prix des casques va considérablement diminuer déjà. C'est déjà le cas d'ailleurs. Donc voilà, ça va être plutôt accessible, je pense. L'objectif, c'est même de faire de la recherche-action avec des communautés de patients, les familles, les cliniciens, pour que ce soit le plus accessible possible.
Un jeu inclusif. Vous parliez tantôt des hologrammes de ballons là, qui s'insèrent virtuellement dans une pièce. Ouais. Les jeunes sont invités à les percer. Mm-hmm. Bon, ce jeu-là développe la motricité, mais aussi aide à diagnostiquer l'autisme?
Ben, dans la version initiale, c'est plus la motricité pour l'instant qu'on est intéressé, mais mes travaux ont montré, justement, avec la version jeu vidéo, celle que les enfants trouvaient un peu moche,
ouais,
à l'hôpital, qu'en fait, il y avait une sorte de signature motrice, en fait, un peu sous-exploitée de l'autisme. C'est-à-dire qu'on a fait ça sur une grande cohorte de plus d'une centaine de patients à l'hôpital Robert-Debré. Et en fait, souvent, on attribue l'autisme, on associe ça d'un point de vue clinique à la théorie de l'esprit ou la capacité d'inférer des intentions à autrui. Et nous, ce qu'on montrait, c'était qu'en fait, il y avait, même chez les plus jeunes, justement, une altération plutôt de la coordination motrice, justement, avec l'autre. Donc, pas de la motricité individuelle, mais de la capacité de se coordonner, comme par exemple dans le cadre de la danse. Quand on danse, on bouge, mais en lien avec le mouvement d'autrui.
Et est-ce que ça fonctionne, ce jeu, seulement avec des jeunes autistes ou aussi avec des adultes?
Ah, ça fonctionne à tout âge. Même, en fait, notre limite, elle est plutôt basse. C'est-à-dire que pour l'instant, on a testé jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, on a fait quelques tests avec les fabricants du casque, avec des enfants un peu plus jeunes. Mais en fait, là, justement, ce sera un des objectifs de l'étude à Sainte-Justine, de définir à partir de quel âge on pourrait commencer à utiliser plutôt. Parce que j'étudie aussi l'effet de la technologie sur le cerveau. Il faut faire attention, en fait, avec ces technologies, de ne pas l'utiliser chez des enfants trop jeunes non plus. Donc, on essaye d'évaluer ça de manière correcte. Mais par contre, de l'autre côté du spectre de la vie, par contre, il n'y a aucune limite hein, au niveau âge.
Et dans la neuropsychologie, quelles sont les possibilités que vous envisagez avec vos découvertes?
C'est complètement l'objectif. En fait, c'est de pouvoir donner des nouveaux outils aux neuropsychologues. Typiquement, là, ma spécialité, c'est l'autisme parce que je travaille sur la cognition sociale et c'est vraiment un des cœurs des thématiques qui m'intéressent au niveau recherche fondamentale même. Mais en fait, l'outil peut être complètement utilisé pour d'autres cas d'évaluation. Ça peut être utilisé pour évaluer la mémoire, l'attention, etc. Et donc là, si ça fonctionne très bien, par exemple, sur les mesures de motricité et de cognition sociale, on pourrait imaginer de faire d'autres jeux différents avec les mêmes technologies pour évaluer d'autres dimensions de la cognition.
Des jeux que les jeunes ne trouveront pas moches.
Exactement. Et puis surtout, en fait, l'idée, c'est aussi, potentiellement, on pourrait avoir ça, un casque comme ça, même dans des milieux ordinaires et surtout dans des lieux qui sont isolés, mm-hmm. et pouvoir avoir une sorte d'évaluation déjà qui permettrait de mettre en évidence peut-être une nécessité d'aller voir un neuropsychologue ou un psychologue chez des communautés qui n'auraient pas forcément eu l'intuition de le faire, quoi.
Et si y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui est intéressé à savoir plus sur Pop Balloon, voir mm-hmm. vraiment là, comment ça fonctionne, j'imagine qu'on a accès à ça, à une vidéo?
Alors, le code du jeu est en ligne. Donc, si les personnes ont un casque HoloLens, ils peuvent l'utiliser.
Okay.
Normalement, c'est tout est open source dans mon laboratoire. Donc, j'ai une pratique de science ouverte.
Bravo.
Après, ça peut être un peu délicat à installer seul, donc j'invite aussi les personnes à me contacter. Je suis facilement trouvable sur Internet.
Ah oui, vous êtes facilement trouvable et vous êtes facilement parlable?
on peut
communiquer
surtout,
facilement avec vous?
Par courriel, oui, et puis je traiterai en fonction de du quotidien, mais
ouais.
Normalement, je réponds assez facilement et on est vraiment très enthousiaste d'avoir des gens qui seraient intéressés pour tester le jeu. Là, justement, pour l'expérience à Sainte-Justine, on va chercher justement des volontaires pour participer à l'étude. Donc, si les gens sont intéressés, je pense que c'est la façon la plus simple même de tester le jeu, ça serait de nous aider en participant à l'étude.
Alors, si on veut justement participer à l'étude, on va sur le site quoi de l'hôpital Sainte-Justine et on tape Guillaume Dumas ou...
Oui, Guillaume Dumas Sainte-Justine, normalement, il y aura mon email qui va apparaître sur la page ou sinon guillaume.dumas@umontréal.ca. Donc ça, c'est mon adresse de l'université.
Parfait. Alors, je rappelle que vous êtes professeur agrégé de psychiatrie computationnelle à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et directeur du laboratoire de psychiatrie de précision et de physiologie sociale du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Et on parlait avec vous de ce beau projet Pop Balloons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, M. Dumas.
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne journée.
Bonne journée.